Guillaume Apollinaire, L'œil bleu. J'aime entendre les vieilles dames parler du temps où elles étaient petites filles. J'avais 12 ans et j'étais pensionnaire dans un couvent du midi de la France, m'a raconté une de ces respectables dames à bonne mémoire. Nous vivions là, séparés du monde. Nos parents seuls pouvaient nous voir une fois par mois. Nos vacances elles-mêmes se passaient dans ce couvent, qu'entouraient d'immenses jardins, un verger et des vignes. Je veux dire que je ne suis pas très sorti de cette enceinte de calme que pour me marier à l'âge de 19 ans. Et j'y étais depuis l'âge de 8. Oh, je m'en souviens encore. Lorsque j'avais franchi le seuil de la grande porte qui s'ouvrait sur l'univers, le spectacle de la vie, l'air que je respirais, le soleil qui me parut plus lumineux qu'il n'avait jamais été, la liberté, enfin, me saisit à la gorge. J'ai tout fait. Je serais tombé, évanoui, étourdi, si mon père, qui me donnait le bras, ne m'avait retenu, il m'avait ensuite mené vers un banc où il se trouvait là et où je m'assis un instant pour reprendre mes esprits. À 12 ans donc, j'étais une petite fille espiègle et innocente, et toutes mes compagnes étaient comme moi. Les études, les récréations, les exercices de dévotion se partageaient notre temps. Cependant, c'est vers cette époque que le démon de la coquetterie pénétra dans la classe où j'étais. Et je n'ai pas oublié la ruse dont il se servit pour nous apprendre que les petites filles que nous étions deviendraient bientôt des jeunes filles. Aucun homme ne pénétrait dans l'enceinte du couvent, sinon le vénérable aumônier qui disait la messe, prêchait et auquel nous disions nos peccadilles. Il avait encore 3 vieux jardiniers peu fait pour nous donner une nette idée du sexe fort. Nos pères venaient nous voir aussi, et celles qui avaient des frères en parlaient comme d'êtres surnaturels. Un soir, à la tombée de la nuit, nous revenions de la chapelle et nous marchions à la queue leu, nous dirigeant vers le dortoir. Derrière les murs qui entouraient les jardins du couvent, un son de corps se fit entendre. Oh, je m'en souviens, comme si cela s'était passé hier. La fanfare héroïque et mélancolique éclatait dans le profond silence au crépuscule, tandis que le cœur de chaque petite fille battait plus fort qu'auparavant. Et cette fanfare qui, répercutée par les échos, mourait dans le lointain, évoquait pour nous, je ne sais quel cortège de héros fabuleux. Et c'est d'eux que nous rêvâmes là, cette nuit-là. Le lendemain, une petite blonde qui s'appelait Clémence de Palambré étant sortie à l'instant de la classe, revint toute pâle et chuchota à sa voisine Louise de Vresec que dans le couloir sombre, elle avait rencontré un œil bleu. Et bientôt, toute la classe connut l'existence de l'œil bleu. On n'écoutait plus la mère qui nous enseignait l'histoire. Les élèves faisaient à présent des réponses saugrenues. Et moi-même, qui n'étais pas très forte dans cette branche-là, comme on me demandait qui avait succédé à François Ier, je dis à tout hasard, mais sans conviction, que c'était à Charlemagne. Et ma voisine, chargée d'éclairer mon ignorance, fut d'avis qu'il avait succédé à Louis XIV. On avait bien autre chose à faire que de penser à la chronologie des rois de France. On songeait à l'œil bleu. Et en moins d'une semaine, chacune de nous eut l'occasion de le rencontrer, cet œil bleu. Nous avions toute la berlue, c'est certain, mais nous le vîmes toutes. Il passait vite, tachant l'ombre des couloirs de son bel azur. Nous en étions épouvantés et aucune de nous n'osait en parler aux religieuses. On se creusait la tête pour savoir à qui cet effrayant œil pouvait appartenir. Or, je ne sais plus laquelle de nous émit l'opinion que ce devait être l'œil d'un des chasseurs qui avait passé quelques jours auparavant au milieu de fanfares de corps, dont les relais et les éclats lyriques, à faire pleurer, persistaient en nos mémoires. Et il en fut décidé ainsi. Nous nous persuadâmes toutes qu'un des chasseurs était caché dans le couvent et l'œil bleu était son œil. Ne songeant point que l'œil unique dénotait un borgne et que les yeux ne vont point à travers les corridors des yeux vieux couvents et l'air point détaché de leur corps. Et cependant, nous ne pensions plus qu'à cet œil bleu et au chasseur qu'il évoquait. Oh, c'était fini d'avoir peur de l'œil bleu. On aurait bien voulu qu'il s'arrêtât de nous fixer. Et nous faisions en sorte de sortir souvent seul dans les couloirs pour le rencontrer. L'œil merveilleux qui nous charmait désormais. Non, aucune de nous n'aurait voulu être vue par l'œil bleu, tandis qu'elle avait les mains tachées d'encre. Et chacune faisait son possible pour paraître à son avantage en traversant les couloirs. Il n'y avait ni glace ni miroir au couvent. Notre ingéniosité naturelle y suppléa bientôt. Chaque fois que l'une de nous passait près d'une porte vitrée et qui donnait sur le palier, un pan de tablier noir plaqué derrière la vitre formait ainsi un miroir improvisé où l'on se regardait vite, vite, en s'arrangeant la chevelure ou en se demandant si l'on était joli. Bien, l'histoire de l'œil bleu dura bien 2 mois. Puis, on le rencontra de moins en moins. Et enfin, on n'y pensa plus que très rarement. Et encore, de loin en loin, ce n'était jamais sans frissonner. Mais dans ce frisson, il entrait de la crainte et aussi quelque chose qui ressemblait à du plaisir, le plaisir secret de parler d'une chose défendue. Je n'avais jamais vu passer l'œil bleu, ô petite fille d'aujourd'hui.